C'est un homme qui marche sur le chemin. Ça fait des jours et des jours qu'il marche. Il est fatigué. Il aimerait bien pouvoir se poser et se reposer. Et là, il voit un gamin qui sort de la cour d'une ferme. Alors il s'approche de l'enfant et lui dit « Hé petit, je suis un voyageur qui marche depuis des jours et des jours, je suis fatigué. Est-ce que tu crois que je pourrais rester là un moment et me reposer ?» L'enfant le regarde et lui dit « Je ne suis pas le père de cette maison, demande plutôt à mon père. » Et il tend le bras vers un homme, encore jeune, qui s'occupe d'un cheval au bout de la cour de la ferme. Alors le voyageur s'approche de l'homme et lui dit « Voilà, ça fait des jours que je marche, je suis fatigué. Est-ce qu'il serait possible que je reste là un moment pour me reposer ?» L'homme le regarde et lui dit « Oh, je ne suis pas le père de cette maison, demande plutôt à mon père. » Et il tend le bras vers un homme d'âge mûr, assis sur un banc, juste près de la porte. Alors le voyageur s'approche de l'homme et lui dit « Je voyage depuis des jours, je marche, je suis fatigué. Est-ce que je pourrais rester et me reposer un moment là ?» L'homme le regarde et lui dit « Ah, je ne suis pas le père de cette maison, demande plutôt à mon père. » Et il tend le bras vers l'intérieur de la maison. Alors le voyageur rentre dans la maison, et une fois que ses yeux se sont habitués à la pénombre, il voit tout près de la cheminée un vieil homme assis sur un fauteuil. Alors il s'approche, il le salue « Bonjour vieil homme, je suis un voyageur fatigué, je cherche un endroit où je puisse me poser, me reposer. » Le vieil homme lève la tête et lui dit « Ah, je ne suis pas le père de cette maison, demande plutôt à mon père. » Et il tend le bras vers une porte. Le voyageur se dirige vers la porte, il l'ouvre et là il se retrouve dans une chambre. Et dans le lit, il y a l'ombre d'un vieillard qui est couché. Alors il s'approche et tout doucement, il dit « Je suis un voyageur fatigué, je cherche un endroit où je puisse me poser, me reposer. » Est-ce que je pourrais rester là ? Et là, un doigt brindille se lève et se dirige vers la fenêtre et il entend une voix qui fait « Je ne suis pas le père de cette maison, demande plutôt à mon père. » Alors, le voyageur s'approche de la fenêtre, il l'ouvre et là, face au ciel rempli d'étoiles, il dit « Je suis un voyageur fatigué, je cherche un endroit où je puisse me poser, me reposer. » Et une voix venue du fond du ciel, venu du fond des âges, lui dit « Sois le bienvenu, mon fils, sois le bienvenu, soyez les bienvenus. »
Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique. Est-ce que vous avez tous un cantique ? Voilà, le numéro 51-10, qui est le premier cantique qui s'affiche là. Les strophes 1 et 3. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison.
Un enfant qui fait l'aumône. Le marchand le regarde d'un air un peu dédaigneux et s'apprête à poursuivre son chemin et se souvient quand même que c'est dimanche matin et qu'il se rend à l'église. Alors, il s'adresse à l'enfant et lui dit « Petit, je te donnerai une pièce d'argent si tu me dis où habite Dieu. » L'enfant lève la tête, il sourit et il dit à l'homme « Eh bien, moi, je t'en donnerai deux si tu me dis où il n'habite pas. » Et nous prenons le cantique 12-01.
Eh ben voilà, tu fais ça très bien.
Et on se lève, du coup. On chante combien de strophes?
Le piano marche pas.
Le piano marche pas.
Non, j'ai baissé. Et
il faudrait qu'il m'arrange.
Combien de strophes? 1, 2, 3, 5.
Comme dans tous les petits villages, il y a une place. D'un côté de la place, il y a l'église. En face de l'église, il y a le bistrot. Et ce matin-là, monsieur le curé sort de l'église et passe devant la terrasse du bistrot. Et à la terrasse est attablé le berger, le berger du village. Et monsieur le curé s'adresse au berger en lui disant « Dis donc, berger, on te voit quand même pas bien souvent le dimanche matin à l'église pour honorer le Seigneur. » Et le berger, qui était un bon bougre, répond au curé « Mais curé, moi aussi j'honore le Seigneur là-haut dans ma montagne. Quand je rêve devant le lever du soleil, quand je danse sous la pluie, quand je m'extasie devant les lumières du coucher du soleil, moi aussi j'honore Dieu. » Le curé n'a pas l'air convaincu et comme le berger est un bon bougre et puis qu'il aime bien le curé, il lui dit « Écoute, je viens avec toi dans l'église et tu vas me montrer comment faire pour prier et honorer Dieu pour que le salut de mon âme soit assuré. » Et le berger suit le curé dans l'église, il fait grand beau dehors et les rayons du soleil passent à travers les vitraux et ça fait comme des petits rayons de lumière qui descendent jusque sur le sol, et les petits grains de poussière qui dansent dans les rayons de lumière. Le berger enlève son manteau, et comme il ne sait pas trop où le poser, eh bien, il le dépose sur un rayon de lumière, et il lève la tête en disant « Tu peux me le garder 5 minutes, s'il te plaît ?» Et là, le curé s'aperçoit que le manteau reste en suspension, en lévitation. Et du coup, il regarde le berger et lui dit « Écoute, berger, emmène-moi dans la montagne. Apprends-moi tout ce que tu sais. Désapprends-moi tout ce que je sais. Apprends-moi à danser sous la pluie. Apprends-moi à regarder le lever du soleil, les couleurs du couchant. » Le berger a emmené le curé dans la montagne. Il lui a appris tout ce qu'il savait. Il lui a désappris tout ce qu'il savait. Et l'histoire dit que leurs prières et leurs louanges ont forcément été entendues.
Je vous invite à ce cantique de chanter le strophe 1 en français et de chanter le strophe 1 en néerlandais, parce que nous avons des paroissiens hollandais parmi nous. Donc je pense que ça va être sympa de chanter ce chant en néerlandais. Et aussi, jeudi matin, il y a un bébé hollandais aussi qui a été frappé par... qui vous savez, donc ça peut être aussi bien. Donc on peut chanter deux fois le strophe 1, une fois en français et une fois en néerlandais. Le 12 est
bon. Non.
Ah, le 12 est bon, c'est bon.
Mais si c'est ça.
Mari et femme. Le mari était beaucoup plus âgé que sa femme. Mais bon, c'était un mariage d'amour. Et le mari, malgré son métier extrêmement prenant, faisait en sorte que ses journées de travail soient les plus courtes possibles, pour que les soirées puissent être les plus longues possibles. Et puis le temps a passé, et les journées de travail se sont allongées, et les soirées se sont raccourci. Alors la femme, pour tromper son ennui, eh bien, a fait connaissance avec le voisin, 3 maisons plus loin. Et puis ils se sont vus un peu, beaucoup, passionnément. Bon, ils avaient beau prendre toutes les précautions possibles, tout le quartier était au courant. Tout le quartier, sauf le mari, bien entendu. Jusqu'au jour où une voisine bien intentionnée lui a tout raconté. Lorsque le mari est rentré, ce soir-là, il a regardé sa femme et lui a dit « Ma femme, je sais que tu me trompes, nous en reparlerons demain. » Cette nuit-là, la femme n'a pas dormi. Elle savait qu'elle était en tort. Et elle savait aussi que son mari avait à peu près tout pouvoir sur elle. Qu'il pouvait la battre, qu'il pouvait la chasser, qu'il pouvait la tuer même. Elle n'a pas dormi, elle a pleuré, elle a prié. Le mari non plus n'a pas dormi. Alors peut-être a-t-il prié, mais surtout, il a réfléchi. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il a fait exactement comme si de rien n'était. Il a simplement dit à sa femme « Je rentrerai de bonne heure ». Et il lui a aussi dit qu'il fallait qu'elle veille à accueillir les ouvriers qui venaient réparer je ne sais quoi sur le toit de la maison. Et le soir, le mari est effectivement rentré de bonne heure. Et il avait dans les mains un paquet, un cadeau. Cadeau qu'il a tendu à sa femme. Surprise, la femme a pris le cadeau, elle a tiré le ruban, elle a ouvert la boîte, et là, dans la boîte, il y avait un bracelet. Un bracelet d'or finement ciselé. La femme a regardé le bracelet, son mari, mais je ne l'ai pas mérité. Non, ma femme, non, tu ne l'as pas mérité, mais par contre, moi, j'ai sûrement mérité de te l'offrir. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 14-9. Alors, la première strophe en français, suivie de la première strophe en néerlandais. C'est ça? Mais tout le monde est polyglotte, donc ça ne posera aucun problème. Thank you. À la limite du désert et de la montagne, il y a une ville. Et lorsque les voyageurs arrivent de la montagne, ils pressent le pas lorsqu'ils aperçoivent les murailles de la ville. Ils savent que bientôt, ils pourront dormir en sécurité. Oui, les chemins de montagne ne sont pas sûrs, parce que parfois, cachés derrière les rochers, il y a des hommes qui sont là pour tout vous prendre. Et parfois même la vie, parce que c'est bien connu, les morts ne témoignent pas. Alors lorsqu'ils aperçoivent les murailles de la ville, ils pressent le pas. Et lorsque les voyageurs arrivent du désert, ce sont les chameaux qui pressent le pas, avant même que les voyageurs aient vu les murailles. Les chameaux qui sentent l'odeur de l'eau. Et les chameaux pressent le pas parce qu'ils savent que bientôt, ils vont pouvoir boire, boire, boire et se refaire la bosse. Cette ville a un secret. Ce secret, c'est une source qui coule et qui alimente toutes les fontaines qui chantent dans la ville. Et dans cette ville-là, il y a une femme qui est en train de mettre au monde son premier enfant. Et l'eau coule à côté d'elle, et l'eau coule du dedans d'elle. On est allé chercher son mari qui était en train de travailler au champ. Et il vient, et lorsqu'il arrive, il prend son fils premier-né et il le présente à tous ses voisins. L'histoire ne dit pas comment s'appelle cet enfant. Parce que, au fil du temps, la mère se rend compte que quelque chose ne va pas avec son tout petit. Elle ne sait pas vraiment quoi, mais une mère, ça sent ces choses-là. Elle se rend compte que son petit tourne la tête, mais ne tend pas les bras vers elle lorsqu'elle s'approche. Et lorsque le père rentre, l'enfant tourne sa tête vers la grosse voix, mais lorsqu'il se déplace, il tombe, il se cogne. En fait, l'enfant ne voit pas. L'enfant est aveugle. Et en ce temps-là, quand quelque chose comme ça arrivait, eh bien, c'est qu'on disait que quelqu'un avait fait quelque chose de mal. Alors la mère s'est interrogée et elle s'est demandé si elle avait fait quelque chose de mal, mais non. Alors elle s'est demandé si par hasard son mari n'aurait pas fait quelque chose de mal. Alors elle l'a regardé par en dessous et non. Alors si ni elle ni son mari n'avaient rien fait de mal, peut-être que c'était l'enfant qui avait fait quelque chose de mal. Alors cet enfant a grandi sous des regards qu'il ne voyait pas. Et puis, en ce temps-là, quand quelqu'un était comme ça, on disait qu'il était impur. Alors, si on le touchait, après il fallait se laver les mains pour se purifier. Alors l'enfant a grandi sous des regards lourds, sans jamais être touché. Alors, il s'est construit une muraille pour se protéger. Et dès qu'il a pu, il a quitté la maison pour se faire mendiant. Un de plus dans la ville. Il avait un bâton pour marcher, pour se diriger, et un bol pour se nourrir. Et il avait aussi une couverture qui lui servait de manteau. Couverture qui lui servait de manteau et de maison le soir, quand il s'enroulait dans sa couverture dans un coin de porte. Tous les matins, quand le premier chant du coq retentissait, il se levait, il sortait de la ville et il s'asseyait tout contre la muraille. Et là, il écoutait passer les gens. Quand il entendait le bruit des troupeaux et l'odeur des bergers, il ne disait rien. De toute façon, les bergers, ça ne donne pas. Mais par contre, quand il entendait les caravanes, le bruit moelleux des pas des chameaux et le bruissement soyeux des vêtements des marchands, là, il lançait son cri. Et il disait « Aveugle, aveugle, ayez pitié ! Aveugle, aveugle, ayez pitié !» Et les marchands, surtout quand les affaires avaient été bonnes, pouvaient être généreux. Et puis le soir, lorsque la chaleur venait de la pierre qui avait été chauffée plutôt que de devant lui, il ramassait son bol, son bâton, et il s'en allait dans les rues de la ville. Il se posait dans un coin de porte et il s'endormait. Et la vie allait. Vaille que vaille. Tous les matins, il y avait Leïla, la petite gardienne de chèvres, qui passait, il entendait le clap-clap de ses pieds nus sur les pavés, il entendait le bruit des sabots, et puis Leïla avait toujours quelque chose pour lui. Une poignée de dattes, un morceau de galette, quelques figues, ou alors simplement un « bonjour »
rempli de soleil. Et ce matin-là, l'aveugle était contre la muraille. Et puis il entendait des pas, beaucoup de bruit de pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il entendait tout à coup quelqu'un qui a dit « Il va venir, il est là ». Et il y avait de plus en plus de bruit de pas, de plus en plus de bruit de sandales. Et ça faisait comme une roue de bruit, comme une roue de bruit qui tournait et qui passait. Et au milieu de la roue de bruit, il y avait comme un axe de silence. Et tout à coup, il y a deux hommes qui se sont mis juste devant lui. Et l'aveugle était contrarié parce que du coup, il entendait moins bien. Il entendait moins bien à la fois le bruit et le silence. Et puis tout à coup, dans son cœur, ça s'est mis à cogner, à battre. Et ça cognait tellement fort que tout à coup, les mots sont arrivés à ses lèvres sans même qu'il sache ce qu'il était en train de dire. Et il s'est mis à crier « Jésus, fils de David !» Les hommes qui étaient devant lui lui ont dit « Mais tais-toi donc !» Mais à ce moment-là, la roue de bruit s'est arrêtée. Et depuis l'axe de silence est arrivée une phrase qui disait « Faites-le venir !» Alors l'aveugle s'est levé. Et sans même prendre les mains qui se tendaient vers lui pour le guider, il s'est avancé jusque-là d'où venait la voix. Et la voix lui a dit « Que veux-tu ?» Ce qu'il voulait. Mais il voulait voir, bien sûr, voir. Et la voix a repris en disant « C'est ta foi qui te sauve. » Et à ce moment-là, ça a fait comme une grande déchirure. Et d'un seul coup, il a ouvert les yeux et il a vu le premier visage qu'il n'ait jamais vu. Et il a vu le premier sourire qu'il n'ait jamais vu. Un sourire qui était comme un soleil de tendresse. Le soir, lorsque la petite gardienne de chèvre est rentrée, elle n'a pas vu l'aveugle. Il y avait juste une couverture qui faisait comme une carapace de tortue vide, un bâton, un bol. Le fils de Timée, Bartimée, était parti. Il était parti suivre son soleil sur les routes de Palestine. Et je vous invite à prendre le cantique 2208 comme un souffle fragile.
Thank you.
un roi. Un roi juste et bon. Et ce roi avait une fille, Zara. Zara était belle. Elle était tellement belle que lorsque le roi avait des amis dans la peine, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde le soleil. » Si le soleil ne suffisait pas à consoler les amis du roi, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde les fleurs. » Et si les fleurs ne suffisaient pas à consoler les amis du roi, il leur disait « Mon ami, si tu es triste, regarde ma fille. » Et Zara suffisait à consoler toutes les peines du monde tant elle était belle. Et un jour, Zara eut 18 ans. Son père l'a appelée et lui a dit « Ma fille, voici pour toi le temps de quitter ma maison pour aller vivre dans la maison d'un autre homme. Voici pour toi le temps de te marier. » Alors bien sûr, je pourrais ordonner, mais comme je t'aime, dis-moi si tu aimes un homme dans le secret de ton cœur. Et dans ces cas-là, j'enverrai mes soldats le chercher et dans 8 jours, les noces seront faites. J'entends et j'obéis, mon père. En effet, j'aime un homme, mais je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il est. Mais puisque venu pour moi le temps de quitter ta maison, eh bien fais construire une maison pour moi dans les jardins du palais. Une maison assez grande pour contenir un métier à tisser. Et c'est ce qui fut fait. Zara s'est installée dans la maison construite pour elle et elle a commencé à tisser un manteau de laine bleue. Et pendant ce temps, le vent et les oiseaux ont porté la nouvelle. Zara attendait l'homme qu'elle aimait. Et des hommes sont venus. Des hommes ont marché sur les graviers du chemin. Et des hommes ont frappé. Mais à chacun, Zara a dit « Non, non, tu n'es pas l'homme que j'aime. Mais donne-moi ton prénom et je le broderai sur mon manteau de laine bleue. » Et c'est comme ça que Zara a brodé les prénoms de Mohamed, Yazid, Soufiane, Abdelatif. Et bientôt, le manteau fut entièrement brodé de prénoms de laine blanche, de laine rouge, de laine d'or. Et le temps a passé. Des petits chemins de mystère se sont tracés autour des yeux de Zara. Ses seins sont devenus lourds, ses hanches se sont arrondies. Un jour, des pas ont retenti sur les graviers du chemin. Mais personne n'a frappé. « Qui est là ?» Personne n'a répondu. Zara alors a regardé par la fente de la porte et là, elle a vu un homme qui riait. « Qui es-tu ?» a demandé Zara. L'homme n'a pas répondu. Zara alors a posé ses lèvres sur la fente de la porte et de nouveau elle a demandé « Mais qui es-tu ?» De l'autre côté, l'homme s'est approché. Il a posé ses lèvres sur la fente de la porte et il a dit « Je suis Mokhtar et je t'aime. » Zara alors a ouvert la porte et Mokhtar est entré. Mokhtar, dans la langue de là-bas, ça veut dire l'élu, celui qui est choisi. Il a pris Zara dans ses bras et puis il l'a fait tourner, il l'a fait danser. Et puis il a tiré un petit bout de laine qui dépassait du manteau de laine bleue. Il l'a tiré et le prénom de Mohamed s'est débrodé et un oiseau s'est envolé. Mokhtar alors a tiré un à un tous les petits bouts de laine qui dépassaient du manteau de laine bleue. Et un à un, les prénoms se sont débrodés. Et un à un, les oiseaux se sont envolés. Ils formaient un nuage au-dessus de la tête de Mokhtar et de Zara. Et pendant ce temps, les petits chemins de mystère autour des yeux de Zara se sont effacés. Ses seins sont redevenus fermes, ses hanches se sont affinées. Le nuage d'oiseau est sorti par la porte ouverte et la porte s'est refermée. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce qui se passe entre mari et femme, entre amant et amante. Mais vous qui avez écouté cette histoire, sachez qu'il y a toujours un petit bout de laine à tirer, un rire à partager et un amour à donner. Et je vous invite à prendre le cantique 45-21.
Et je vous invite à vous lever.
tout en haut de la colline, ils étaient trois. Trois petits arbres. Trois petits arbres qui rêvaient à ce qu'ils deviendraient lorsqu'ils seraient grands. Le premier des petits arbres regardait le ciel rempli d'étoiles qui brillaient comme des pierres précieuses. Et il se disait, quand je serai grand, je serai transformé en coffre à trésors qui contiendra des pierres précieuses et des pièces d'or. Le deuxième des arbres, lui, regardait le ruisseau qui courait vers la rivière vers le fleuve et le fleuve vers la mer. Et il se disait, moi, quand je serai grand, je serai transformé en un navire qui transportera les puissants et les rois. Et le troisième arbre regardait le ciel, regardait la terre. Elle se disait, moi, tout ce que je veux, c'est de rester là et de devenir le plus grand arbre du monde. Et le temps a passé, le soleil a brillé, la pluie est tombée, et les petits arbres en ont presque oublié leurs rêves. Et puis un jour, trois bûcherons sont arrivés sur la colline. Le premier bûcheron a regardé le premier arbre et il a dit, cet arbre ira bien pour ce qu'il me faut. Et en un éclair abattu d'un coup de hache, le premier arbre tomba. Et le premier arbre s'est réjoui lorsque le bûcheron l'a emmené chez le menuisier. Ça y est, je vais être transformé en coffre à trésors. Ouais, enfin, on avait bien d'autres choses à faire que de fabriquer des coffres à trésors. Et l'arbre a été transformé en mangeoire pour animaux et se retrouver au milieu des bêtes remplies de paille et de poussière. Le deuxième bûcheron a regardé le deuxième arbre et cet arbre ira bien pour ce qu'il me faut. Et en un éclair abattu d'un coup de hache, le deuxième arbre est tombé. Et il s'est réjoui lorsqu'il a été amené au chantier naval. Ça y est, je vais être transformé en navire pour transporter les puissants et les rois. Ouais, il a juste été transformé en une vulgaire barque de pêche qui transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Quant au troisième arbre, il a senti son cœur se serrer quand il a vu le troisième bûcheron. Et abattu d'un coup de hache, le troisième arbre est tombé. Il a été débité en poutres et stocké dans une cour. Le soleil a brillé, la pluie est tombée, et les petits arbres en ont oublié leurs rêves. Mais une nuit, le premier arbre a senti qu'on déposait dans sa paille un enfant. Et il a entendu une voix qui disait « J'aurais bien aimé lui faire un berceau. » Et une autre qui répondait « Mais cette mangeoire est magnifique. » Et là, le premier arbre a su qu'il contenait le trésor le plus précieux des cieux et de la terre. À quelque temps de là, le deuxième arbre naviguait sur le lac et il était inquiet parce qu'il transportait beaucoup de voyageurs. Et le vent avait forci, la tempête menaçait et l'arbre savait qu'il n'était pas assez solide pour transporter autant de monde en sécurité. Mais voilà qu'un de ses passagers s'est levé, a écarté les bras et a dit « Paix ». Et le vent et les eaux lui ont obéi. Et là, le deuxième arbre a su qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. Et à quelque temps de là, le troisième arbre a eu mal quand on a cloué sur lui les mains d'un homme. Mais trois jours plus tard, il a su que l'amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau, le deuxième arbre fort. Et à chaque fois que les gens regardaient le troisième arbre, eh bien les gens pensaient à Dieu. Et ça, c'est sans doute aussi bien que d'être le plus grand arbre du monde.
Thank you.
d'un grain de blé. D'un grain de blé qui est dans un sac rempli de grains de blé. Il est bien, tranquille, à l'ombre, au frais, entouré de milliers d'êtres pareils à lui. C'est ça la vraie vie, tranquille, à l'ombre. Et tout ce qu'il veut, c'est rester là dans son sac. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris et des mains l'ont planté dans la terre. Et grain de blé a eu peur. Et il a eu mal lorsque le germe l'a percé. Il n'avait rien demandé, lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester dans son sac. Mais lorsque le germe a percé la terre, grain de blé s'est rendu compte qu'il était entouré de milliers de germes pareils à lui. Et là, chauffé par le soleil, baigné par la pluie, caressé par le vent, grain de blé était bien. Tranquille, entouré de milliers d'êtres pareils à lui. Mais c'était ça, la vraie vie. Tout ce qu'il voulait, c'était rester là, dans son champ. Et de blé en germe, il est devenu blé en herbe, et puis blé en épi. Chauffé par le soleil, baigné par la pluie, caressé par le vent, grain de blé était bien. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont coupé et des mains l'ont porté sous la pierre du moulin. Et grain de blé a eu mal. Et il a eu peur lorsque la pierre l'a écrasé. Il n'avait rien demandé, lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester dans son champ. Mais lorsqu'il s'est retrouvé poussière blanche et parfumée, enfermé dans un grand sac, entouré de milliards de grains pareils à lui, enfin la vraie vie. Tranquille, à l'ombre, au frais. Tout ce qu'il voulait, c'était rester là, dans son sac. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris et des mains l'ont mélangé avec de l'eau, du sel et du levain. Et des mains l'ont porté au four. Et grain de blé a eu peur et il a eu mal lorsque la croûte l'a empêché de gonfler comme il aurait voulu. Il n'avait rien demandé, lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester dans son sac. Oui, mais des mains sont venues. Des mains l'ont pris, des mains l'ont rompu et des mains l'ont porté à la bouche d'un homme. Et là, grain de blé s'est dit... Mais c'est ça, la vraie vie. Nourrir un homme. Et je vous invite à prendre le cantique 46-09.
Thank you.
l'histoire d'un pasteur qui demande à un de ses riches paroissiens, un peu suffisant, un peu dédaigneux des autres, donc forcément ça ne peut pas se passer dans cette paroisse-ci. Le pasteur demande à son riche paroissien une obole pour aider les pauvres de la paroisse. Et le riche paroissien répond, d'abord, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Le pasteur alors demande à son riche paroissien de s'approcher de la fenêtre, de regarder par la fenêtre et de lui dire ce qu'il voit. Le paroissien s'approche, il regarde, il dit, je vois des hommes, des femmes passer. Ah bah tiens, il y en a un qui fait la manche, oui, voilà. Et le pasteur alors lui demande de venir près de la cheminée, de se regarder dans le miroir qui est juste au-dessus de la cheminée. Et là, qu'est-ce que tu vois? Le riche paroissien dit, je me vois, moi. Et le pasteur de lui dire, eh bien tu vois, dès que tu mets un peu d'argent derrière une vitre, tu ne vois plus que toi-même. Vous l'avez compris, c'est le temps de l'offrande.
C'est le moment des annonces. C'est pour ça que je faisais des grands signes à Pierre. Mais ça va mieux en parlant.
Bonjour à chacun en ce jour de fête. Merci à chacun d'être ici. Et merci au Sérac qui nous a accueillis ce matin avec du café, des bons gâteaux. Merci à l'orchestre pour la musique. On peut peut-être les applaudir. Merci à Anne qui nous vient de l'Est lyonnais et qui a compté ce culte. On peut l'applaudir également. Et merci à Marie-Vonne et à tous ceux qui ont organisé cette journée de fête. Simplement pour la suite de la journée, après le culte, il y a un moment de détente et de convivialité avec des stands et puis un repas partagé. Donc, même si vous n'avez rien apporté, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à partager ce moment avec nous. Sinon, suite aux événements qui ont eu lieu cette semaine à Annecy, vous pouvez consulter sur le site de l'Église le communiqué que l'on a mis, le conseil presbytéral. Voilà, donc si vous avez la curiosité, allez voir le site. Cette semaine, mardi, il y a le repas du CERA. Donc, les personnes concernées se sont inscrites et voilà, tout est prévu. Mercredi, il y a la prière à 18h. Et le soir, il y a, à la Puya, il y a les amitiés judéo-chrétiennes avec le Rassemblée Générale et une conférence par le docteur Patrick Chemla sur le thème « Sans foi ni loi ». Vendredi, il y a le groupe Bible en partage qui se retrouve ici à 18h30. Et voilà. Après, j'allais dire samedi, mais je me trompe. C'est le samedi de la semaine suivante. Il y aura dans ce temple un beau concert avec la chorale Accord et Dissonance, dont font partie Alexandre et Marguerite. Donc, il y a une affiche dessus la porte, dans le hall, et il y a Marguerite qui vous donnera des flyers à la sortie. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Nous avons cette semaine la tristesse d'apprendre le décès du fils de Marie-Claire Gibert. Voilà, donc le service funéraire est mardi à Valence. Mardi soir, il y a chorale?
Juste quand même dire qu'on a fait un beau concert.
Oui, mais vendredi, on a eu un... Vas-y, Christophe. Oui, mais je ne me rappelle plus le nom de l'association, moi. Vas-y, dis. Voilà, donc vendredi soir, il y a eu un beau concert ici dans ce temple, donc pour une association de Haïti dont fait partie la fille de Monique. L'association s'appelle Younti Souri. Voilà. Et puis, oui, j'oublie, dans le hall d'entrée, vous avez une petite boîte et puis un livre d'or. C'est par rapport à Nadine et à l'année qui a été vécue avec nous. Voilà, donc nous la remercions beaucoup pour l'année qu'elle a passée avec nous. Et n'hésitez pas à aller signer ce livre d'or.
Vraiment, on a un président, il n'est pas au point. Il a oublié un cadeau. Il a oublié de donner le...
Et moi, j'arrive juste pour le côté pratique. Quand le culte est terminé, vous allez déposer vos cantiques. Quand ils sont avec vignette, vous les déposez à l'extérieur du temple. Sinon, enfin à l'extérieur, dans le hall, hein. Pas ici sur les présentoirs, s'il vous plaît. Voilà, ceux avec pastilles dans le hall et les autres sur les présentoirs. Merci beaucoup.
Alors, à la fin du culte, les enfants, vous allez avoir des stands, des pêches miraculeuses, des chamboultous, de l'origami, du dessin, et vous pouvez aussi vous faire maquiller. Les adultes aussi, hein, si vous voulez. Donc, il y a tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire tout ce que vous avez à faire. Il y aura de la pétanque d'intérieur. C'est ouvert à tous. Voilà. Donc, restez bien.
Vous m'avez dit merci, mais c'est à moi de vous dire merci. Merci de m'avoir accueilli. Et merci pour cette année qui a été tout sauf une parenthèse pour moi. Ça m'a remis le pied à l'étrier et je peux vous assurer que grâce à vous, je pars dans l'Est avec un grand, grand désir à nouveau d'être pasteur en paroisse. Et c'est grâce à vous aussi. Merci.
son temps et elle adore faire les magasins. Et cet après-midi, justement, après-midi shopping. Et elle va dans la rue, de boutique en boutique. Et puis elle s'arrête parce que juste en face, là, elle voit une boutique qui n'y était pas 8 jours avant. Alors elle traverse. Il n'y a rien en vitrine qui indique ce qui se vend. Il y a juste l'enseigne qui indique « À la boutique du bon Dieu ». Elle entre. Et là, dans la boutique, le mur du fond est recouvert de tiroirs, du sol au plafond. Vous savez, comme dans les vieilles quincailleries. Et puis devant le mur de tiroirs, il y a un comptoir. Et entre les tiroirs et le comptoir, il y a un vieux bonhomme. La moustache souriante qui la regarde. Qu'est-ce que c'est? Et Julie lui dit, mais qu'est-ce que vous vendez? Tout. Comment ça, tout? Eh bien oui, tout ce que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, ici vous le trouverez. Vraiment? Oui, tout, demandez, et vous aurez. Julie hésite un moment et puis elle laisse venir et elle demande, j'aimerais un peu de joie de vivre pour ma vieille voisine, toujours seule. J'aimerais un peu de paix pour ceux qui ont le cœur rempli de chagrin et de colère. J'aimerais de l'espérance pour ceux qui n'en ont plus. Et puis elle laisse venir tout ce qui l'habite. Et puis bientôt elle se tait et elle laisse passer dans le creux de son cœur et dans le creux de sa tête tout ce qui serait tellement bien. Et à un moment, des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis tellement longtemps lui viennent aux lèvres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Julie reste un long moment silencieuse. Et elle redresse la tête et elle voit que le vieux bonhomme s'est retourné et s'affaire à ouvrir des tiroirs. Et puis se retourne et il lui tend un petit sachet de papier dans lequel il y a on ne sait quoi. Alors elle fronce les sourcils et devant son air interrogatif, le vieux bonhomme lui dit « Mais tu sais, ici, on ne vend pas de fruits, on ne donne que les graines. » Et je vous invite à prendre le cantique 49-17. 47-19, pardon, c'est ce qui a marqué là, voilà, pardon.
Oh.
habitaient de chaque côté de la rivière, les deux voisins. Il y avait la rivière qui séparait leur champ, et il n'y avait pas de pont pour passer de chaque côté de la rivière. Et finalement, c'était bien parce que ces deux-là, ils ne se supportent pas. Il y en a même un des deux qui n'en pouvait plus de voir le chien de son voisin, la maison de son voisin, et quant à voir son voisin, non, ça, il n'en pouvait plus. Alors il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et tout problème à solution, il a eu l'idée, eh bien, qu'il allait construire un mur qui partirait du grand peuplier là-bas au bout du champ et qui irait jusqu'au grand saule pleureur là-bas à l'autre bout du champ. 3 mètres de haut, aucune ouverture, comme ça, il ne verrait plus le chien, il ne verrait plus la maison et surtout, il ne verrait plus le voisin. Et il était là, prêt à partir pour acheter tous les matériaux, quand on a frappé à sa porte. Il ouvre. « Bonjour, voilà, je suis maçon, je cherche de l'ouvrage, vous n'auriez pas quelque chose à me faire faire ?»« Ah bah tu tombes bien, il y a un mur à construire. » Et notre homme a emmené le maçon jusque chez le marchand de matériaux. Il achète exactement ce qu'il faut, sous les conseils avisés du maçon, et ils reviennent. Et puis notre homme dit « Écoute, je dois partir en voyage pour affaires, je rentre dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le mur est fait. » Du peuplier là-bas jusqu'au sol là-bas, 3 mètres de haut, aucune ouverture, je compte sur toi. Top là. Et notre homme est parti en voyage. Et puis dans les histoires, le temps passe vite, donc les 3 semaines se sont écoulées, et il est sur le chemin du retour. Et là, il se dit, oh, il va y avoir le mur, je ne verrai plus mon voisin, je ne verrai plus la maison, je ne verrai plus le chien de mon voisin, le bonheur total et absolu. Seulement quand il arrive, c'est pas du tout un mur qui a été construit. Non, là, le maçon a construit un pont pour passer de l'autre côté de la rivière. Alors, non seulement il voit le chien de son voisin, il voit la maison de son voisin, mais il voit le voisin qui, en plus, arrive en courant, les bras grands ouverts, un sourire jusqu'aux oreilles, et qui traverse le pont, et qui se précipite vers lui, qui le prend dans ses bras, qui lui dit « Ah, voisin, voisin, merci, merci, merci !» Moi, j'étais restée sur ma rancune, et toi, tu as trouvé le moyen de construire un pont, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, merci, merci, merci. Et notre homme se sent tout bizarre. Et tout ce qu'il avait dans le cœur, là, d'un seul coup, s'est envolé. Et il répond à l'étreinte de son voisin. Et une fois les effusions terminées, tous les deux se retournent vers le maçon et lui disent « Eh maçon, tu peux rester à nous deux, c'est sûr, on va te trouver de l'ouvrage. » Le maçon les regarde et leur dit « Je vous remercie, mais je dois partir. J'ai d'autres ponts à construire. » Alors à vous tous, soyez bâtisseurs de ponts, et la vie sera plus belle. Et nous terminons avec « Toi, lève-toi et va construire des ponts ». 62-86. Thank you. instructions. Merci.